Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Pourquoi aimez-vous la langue française? C'est notre thème ce matin. Quel rapport charnel, passionné, sensuel, intellectuel entretenez-vous avec la langue de La Rochefoucauld, Balzac, Colette, Proust, Simenon, Dany Laferrière, Amélie Nothomb, Barbara, Booba? Le français, une langue réputée difficile, semée d'embûches et de chausse-trappes, une palette subtile, un nuancier extraordinaire pour peindre les idées et les sentiments, la pensée et l'amour, la vie dans sa complexité et sa poésie. D'où vient cette jouissance liée à la langue française, à sa musicalité, à sa morphologie, à son histoire, à sa syntaxe, à sa grammaire, à son orthographe ou bien à son vocabulaire? Nos invités vous raconteront les raisons de leur amour fou et puis nous verrons si ce plaisir est entravé par l'extension du domaine de l'écriture inclusive qui divise les amoureux du français. Et vous, pourquoi chérissez-vous notre langue? Partagez également votre point de vue sur l'écriture inclusive 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Laure de Chantal, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes normalienne et agrégée de lettres classiques, vous dirigez la collection Signée aux belles lettres. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour Ali.
Agrégé d'histoire, chroniqueur dans l'émission 28 minutes, producteur du cours de l'histoire sur France Culture tous les matins. Vous publiez ensemble chez Stock Notre grammaire est sexy, sous-titré Déclaration d'amour à la langue française. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université, dramaturge. Vous avez publié il y a quelques mois chez Grasset, Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous. Bonjour Julien Soulier.
Bonjour Ali.
Ancien professeur de lettres classiques, formateur pour le projet Voltaire, vous publiez chez First avec Monsieur Lamine, qui est à la fois dessinateur et professeur de lettres en Belgique, etc., etc. La langue française se raconte. Alors, première question d'une simplicité biblique, pourquoi êtes-vous amoureux fou de la langue française? Je commence par vous, Xavier Mauduit.
Ah, je suis amoureux de la langue française parce que c'est mon outil de travail, c'est mon outil de vie. Sans la langue, nous ne sommes rien, Ali. Mais c'est vrai, vous aussi, nous tous, tout le monde, nous travaillons, nous vivons de la langue. Alors, avouez que c'est quand même plus joli la vie quand on est amoureux de son outil de travail.
Julie Neveu.
Alors moi je suis un peu embêtée parce que c'est un peu comme si vous demandiez à Obélix pourquoi il aime la potion magique dans laquelle il est tombé petit, voyez. Et en fait, eh bien, je pense que si vous demandez à un francophone dont la langue maternelle est le français pourquoi il l'aime, ben c'est hyper difficile. Pourquoi vous aimez quelqu'un? Je dirais pas que c'est un amour comme celui d'un amour amoureux romantique quand vous rencontrez quelqu'un. Il n'y a pas cette rencontre parce qu'on est dans la langue française. Donc pour moi c'est plus un amour de type maternel. C'est l'amour qu'on a pour sa mère, c'est-à-dire qu'on a incubé dans le ventre, on a été bercé par cette mélodie, par ces sons. On apprend la langue en même temps que voilà, on fait ses premiers mots et on entend cette langue qui est la langue maternelle. Et après, donc c'est très très difficile de dépassionner le débat. Il y a un sentiment très fort, mais qui vient du ventre hein, et qui ne fait que s'amplifier.
Julien Soulier.
Alors moi j'aime la langue française depuis très longtemps parce que je trouve que c'est une vieille dame excentrique. Donc c'est une vieille dame pour qui j'ai beaucoup d'affection et puis elle a une longue vie, elle a encore de beaux jours devant elle, j'espère et je pense. Mais je l'aime aussi parce que elle a des petits défauts, ses petites excentricités, ses bizarreries, je pense qu'on en parlera. Et donc c'est tout ça qui fait que j'adore la langue française.
Laure de Chantal.
Alors moi, je pense que je l'aime parce qu'elle me surprend toujours depuis l'école maternelle et la petite école. Ça fait quand même déjà un bon moment et je pense qu'il n'y a pas un jour sans que je ne découvre quelque chose grâce à la langue française.
Julie Neveu, ce que nous disons à propos de la langue française, un locuteur espagnol, danois ou chinois pourra affirmer la même chose à propos de sa propre langue, évidemment.
Ben, je pense que fondamentalement, du moins le sentiment qu'il a à l'égard de cette langue, le sentiment même esthétique, il a l'impression que c'est la plus belle. Ça, c'est très difficile de découvrir des caractéristiques objectives à propos d'une langue. Mais on va essayer. Et il y a en effet des différences, il y a des spécificités. Est-ce que ces spécificités justifient qu'on l'aime davantage qu'une autre? Je suis pas sûre. Ensuite, qu'elle puisse mieux transmettre ou être précise ou avoir des distinctions, des subtilités magnifiques à propos de telle ou telle catégorie, ça oui, ça on en reparlera.
Alors, quel est le génie de la langue française? Pour Voltaire, on appelle génie d'une langue son aptitude à dire de la manière la plus courte et la plus harmonieuse ce que les autres langues expriment moins heureusement. Julien Soulier, vous partagez cette formule voltairienne?
Oui, c'est très bien dit, mais c'est un petit peu chauvin quand même sur les bords. Non, je pense qu'effectivement, on peut. Chaque langue aurait ses qualités, ses défauts. En anglais, enfin, je suis pas un angliciste émérite, mais c'est vrai que en anglais, on a énormément de termes concrets, très matériels. En français, on est peut-être plus dans les concepts, dans les idées, dans ce genre de choses-là. Mais je pense que chaque langue, effectivement, a sa façon de fonctionner, a sa façon de s'exprimer. C'est aussi une façon de voir le monde pour chacun d'entre nous. Donc, chaque langue est une façon de voir le monde, mais je pense pas que la langue française est un génie particulier, même si on l'a dit depuis des siècles. Je pense que là, c'est quelque chose qui relève plus du chauvinisme que de quelque chose de vraiment linguistique.
Xavier Mauduit.
J'assume le chauvinisme. Notre langue est absolument magnifique. Elle est magnifique, je pense aussi, parce qu'elle est porteuse d'une histoire. C'est-à-dire que les mots que nous utilisons au quotidien racontent ce que nous sommes depuis des siècles, des millénaires. Et c'est ça aussi qui nous interpelle sans cesse avec la langue française. C'est le résumé de ce que nous sommes.
Julie Neveu.
Ah ben je suis d'accord, mais est-ce que Xavier Mauduit pense que ce n'est pas le cas des autres langues?
Mais si, je le pense
est-ce
aussi.
Est-ce qu'elle ne raconte pas chaque peuple? Ah d'accord.
Mais par définition, le chauvin est de mauvaise foi.
Vous avez décidé de jouer le chauvin, très bien.
Lors de Chantal.
Alors, je pense qu'on peut ajouter pour le français, si ce n'est qu'à l'étranger, avoir un accent français ou parler français est toujours diablement sexy. Qu'elle a un côté un peu vieux grenier, c'est-à-dire qu'on a une conception très historique de la langue et on garde tout. Même dans l'orthographe, vous voyez, alors qu'il y a beaucoup de pays qui ont choisi de simplifier, nous en français, on garde toutes les traces des étymologies latines et grecques notamment. Les TH, alors qu'on va volontiers les faire disparaître dans d'autres langues latines.
Alors, en préparant cette émission, je suis tombé sur un vieil article du Monde, daté de 1945, un papier d'Émile Henriot, et qui n'a pas pris une ride. Je le cite, « Toute langue est un organisme vivant et comme tel, sujette à l'évolution, à la maladie, à la mort, qui se défend et que l'on soigne. La nôtre obéit à des lois complexes, où la tradition et les besoins nouveaux s'accommodent ou se contrecarrent. L'usage ayant toujours le dernier mot, et cet usage étant tantôt beau, tantôt mauvais, une langue qui cesse de se rénover, de se diversifier, de s'enrichir, risque de se figer, et figer devient une langue morte. » Julien Soulier.
Oui, c'est exactement ça. J'aurais bien aimé écrire comme ça, effectivement, ça m'aurait bien plu. Oui, non, mais bien sûr, c'est une langue très vivante qui a peut-être pas deux millénaires, on en parlera peut-être, mais qui est un petit peu plus récente quand même. Mais c'est une langue qui est bien vivante, qui bouge, des mots nouveaux arrivent. Des mots, malheureusement, on le voit dans les dictionnaires de temps en temps, certains sont poussés discrètement vers la sortie, donc certains mots meurent. C'est la vie d'une langue, comme c'est la vie d'un corps humain, de tout organisme. Et donc c'est ça aussi qui est très intéressant de l'avoir évolué en fonction effectivement, notamment de l'évolution de la société.
Et le mot a été prononcé, l'usage. Alors, l'essentiel dans cette histoire, c'est l'usage.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que, en vérité, celui qui remporte toujours tout, c'est l'usage. Et l'Académie française, les grammairiens, toutes les cohortes des linguistes peuvent arriver en disant « Non, il faut utiliser telle manière de dire cette chose. » Mais l'usage le remportera toujours, toujours.
Et c'est le cas, par exemple, avec le Covid. Covid, ouais, Julien Soulier.
Oui, effectivement. Là, on voit bien que... Alors, moi, c'est vrai que l'usage, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que c'est quand même une espèce de tyran comme ça, très, très flou, très nébuleux. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est peut-être le président de la République, mais c'est aussi la France d'en bas, comme aurait dit l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y a comme ça, cet usage, moi, je trouve ça assez... une tyrannie de l'usage. Et en même temps, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est vrai que ça n'est pas l'Académie, ce ne sont peut-être plus les linguistes, et on le voit bien avec l'hésitation générique sur le mot Covid. Est-ce qu'on doit dire le Covid, la Covid? Le Covid s'est imposé comme ça par l'usage, et pourtant, l'Académie a mis un petit retard à l'allumage, et s'est réveillé en préconisant la Covid. Moi, j'avoue que les deux me conviennent. Pourquoi la Covid? Alors, parce que ça viendrait, il faudrait transposer le mot en français, ça donnerait maladie. Mais à ce moment-là, pourquoi pas la week-end, puisque c'est la fin de semaine.
Donc, bien voilà, vu.
Oui.
Julie Neveu.
Oui, non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là, sur le ou la Covid, on assiste à un phénomène linguistique très, très intéressant, parce que comme, grâce à cette magnifique maladie qui nous est tombée dessus, on a toutes sortes, une pléthore de nouveaux mots qui sont apparus, dont Covid. Covid, c'est un mot anglais, et en fait, en effet, on l'a spontanément traduit par le, parce que le, là on en reviendra quand vous parlerez de l'écriture inclusive, c'est le genre par défaut, c'est-à-dire que c'est celui qui ne marque, qui marque le moins, et donc on a tendance à utiliser spontanément pour les choses en fait, pour les mots qui désignent des choses. Donc on a dit le Covid comme on disait le virus, et c'est vrai que l'Académie française était arrivée en retard en disant ah il faut dire là, avec une règle totalement arbitraire et qui n'est pas systématique. Et là, eh bien ce que je constate, c'est que les gens hésitent, même les professionnels sont embarrassés de cette, de ce coup d'autorité produit par l'Académie française un peu tardivement, et donc moi ça m'agace, je voudrais qu'on on dise tous le, et ça m'énerve à chaque fois que je vois un journaliste qui est gagné à l'usage du là.
Alors on célèbre ce matin l'amour de la langue française, mais on devrait plutôt parler des langues françaises plutôt que de la langue française, Julien Soulier.
Oui, exactement. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Donc, il faut pas oublier la francophonie. Il faut pas oublier que finalement, nous, petits Français, 66 millions d'habitants, nous sommes minoritaires à parler le français. Donc, il n'y a pas un Français, mais des Français, le Québec, souvent des Français qu'on, enfin, des langues françaises qu'on trouve truculentes, qui ont leurs particularités. Souvent, bon, on a un côté peut-être un peu paternaliste vis-à-vis de cette francophonie-là. Mais il y a une vraie créativité, il y a une vraie prise en main, notamment au Québec, de la français. D'ailleurs, il me semble que eux ont décidé que ce serait la Covid, si je ne me trompe pas. Voilà, donc sinon, c'est vrai que c'est intéressant de voir que le français de France est assez minoritaire malgré cette espèce de peut-être de côté un peu hautain. Et paternaliste vis-à-vis de la francophonie.
Vous avez modifié.
Ça, c'est un plaisir hein, de voyager, parce qu'il fut un temps, vous savez, on pouvait voyager et d'arriver n'importe où dans le monde. Haïti, un chauffeur de taxi à New York parle français. Il est haïtien, République démocratique du Congo. Partout, on entend parler français. Il y a quelque chose de vraiment très fort et très magique. Et si ce n'est pas parler français, c'est de voir, bien sûr, la France, son empire colonial a laissé des traces, mais ces traces-là parfois passent par la langue. Donc il y a quelque chose de très émouvant avec notre langue.
Alors un amour. L'amour trop étouffant qui enfermerait la langue dans un corset, cela peut faire mourir une langue, Laure de Chantal.
À partir du moment, je pense effectivement, où on veut qu'une langue se fige et qu'on n'écoute pas ces gens parler, parce que tout à l'heure on parlait d'usage et je pense qu'il y a une valeur très politique à la langue et notamment une valeur démocratique. C'est-à-dire que l'usage, bon, bah, c'est la puissance démocratique, c'est nous tous qui prenons un peu les rênes du pouvoir, on va dire, grâce à notre langue. Et quand on veut trop figer, en effet, une langue devient une langue morte ou une langue ancienne. Mais j'insisterai sur une chose, moi je vais un peu plaider pour ma paroisse, hein, parce que pour le latin et pour le grec, c'est pas parce qu'une langue est morte qu'elle est moins belle. C'est juste parce que, bah voilà, on a figé les choses, on l'a arrêté du point de vue historique, et puis peut-être que plus tard, dans un autre contexte, on va pouvoir la redécouvrir et la faire revivre dans un autre pays qui pourra en avoir besoin. C'est juste qu'on finit la période et on arrête l'histoire. Donc, à mon sens, une langue morte, on pourrait même dire une langue, peut-être une langue ancienne, n'est pas moins belle, elle est juste finie. Ce qui est magnifique dans le français, c'est effectivement c'est une langue vivante qui continue, qui perdure. Et là, on insistait sur l'entrée des nouveaux mots, parce que nous sommes des adultes, donc nous ne chamboulons plus énormément les manières de parler. Mais je voudrais aussi insister sur l'évolution de la grammaire, de la manière de jouer avec les mots, de construire la syntaxe que peuvent avoir les enfants et les adolescents qui renouvellent et font que notre langue est vivante et on doit les écouter également.
Alors Xavier Mauduit, nous renonçons parfois à un verbe, à un nom, à une phrase, de peur de commettre une faute. Comme beaucoup de Français, vous aimez tellement notre langue que vous êtes obsédé par le fait de commettre des fautes, notamment à la radio.
Ah ben oui, il faut faire très attention à la radio. Effectivement, les fautes s'entendent, hein, ce sont des fautes de liaison. Et Ali, oui, nous sommes terrifiés par ces fautes de liaison, parce que auditeurs, auditrices, attentifs, que ce soit sur France Culture ou sur France Inter, nous avons tout de suite des remarques légitimes et justifié. Et non, mais c'est vrai, ça nous pique les oreilles. Donc c'est très important, parce que le respect de la langue, c'est aussi un signal de respect envoyé à l'autre. Cela vaut pour au moment où l'on parle à la radio, mais n'importe quand, le mail, le texto, n'importe quel écrit nécessite quand même de faire attention à l'orthographe pour faire un clin d'œil sympathique à celui qui reçoit le message.
Mais pour vous, par peur de mal faire, on use et on abuse de phrases toutes faites.
C'est vrai. C'est vrai, on le voit tous, hein. Quand on hésite à tout à l'heure, faut-il un E ou pas? Bon, à bientôt, à tantôt. Vous voyez, ces choses-là. Eh bien, il faut réussir à surmonter ces erreurs parce que, en réalité, dès que l'on connaît la règle, il n'y a plus de problème, on ne fait plus de faute. Mais c'est vrai qu'il y a des mots qui nous font peur. Et pour les chiffres, au moment de les écrire, on préfère largement éviter. Voilà, 1, 1, 1, 2, 1, 3, c'est très bien.
Julien Soulier.
Oui, mais les chiffres, même à l'oral, hein, avec le passage à l'euro, forcément, le problème de la liaison s'est posé. Donc, de ce fait, certains préconisent le retour aux francs. Je ne sais pas si c'est une bonne raison. Mais c'est vrai que 80 euros, 100 euros. Alors voilà, donc la plupart des gens ont choisi de ne pas faire de liaison, voilà, d'avoir cette espèce d'hiatus. Et mais c'est vrai qu'on commet, bon, je pense, enfin faute. Moi j'évite le terme faute, je préfère dire le terme erreur, qui est peut-être moins connoté judéo-chrétien, on va dire, qui est moins volontaire, moins fait sciemment. Mais c'est vrai qu'on commet tous des erreurs ou des écarts par rapport à la norme. Après, les linguistes parleront plutôt d'écarts par rapport à une norme que d'erreurs, parce que parfois les écarts d'aujourd'hui, les fautes ou les écarts d'aujourd'hui sont l'usage de demain.
Alors tous les jours, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davy, reçoit une tonne de courriers pointant à juste titre nos fautes de français, nos erreurs de prononciation. Comment expliquez-vous cette extrême sensibilité des auditeurs à cette question-là, Julie Neveu ?
Bah écoutez, je crois que c'est un sentiment, c'est une crainte, alors peut-être née d'un sentiment d'infériorité et de domination et d'invasion, notamment par les anglicismes. Et je pense qu'il faut rassurer l'auditeur, rassurer vos auditeurs, Ali, et vos auditrices. Dites-leur que la faute que peut-être vous aurez faite, qui pour moi en effet serait pas une faute, mais en effet plutôt un écart par rapport à une norme et qui peut-être va devenir la norme, ne menace pas du tout la façon dont eux parlent le français, que le français évolue, et en effet que c'est dans une sorte de rigidité et de rejet de tout ce qui peut être apporté par d'autres langues, par le brassage des cultures, qu'on va perdre le combat, si combat il y a. Mais depuis le début, en fait, ça repose vraiment sur une fausse conception du français, qui serait une langue, magnifique, supérieure, et surtout qui serait issue d'un idéal monolingue. Or, c'est pas le cas du tout. La langue est le fruit du contact entre plusieurs... est le fruit du contact entre plusieurs langues, comme la plupart des langues. Et donc, n'ayons pas peur, ayons moins peur, et ne pensons pas qu'elle est attaquée. On peut l'aimer sans penser qu'elle est attaquée, qu'il faut la défendre. C'est ça que je voudrais dire.
Laure de Chantal.
Ah oui, je voudrais faire un petit point sur le génie de l'erreur. Je travaille dans l'édition, et donc notre vous, c'est les liaisons à la radio. Nous, c'est les coquilles dans les manuscrits. Je peux vous garantir que n'importe quel livre qui a été... lu, relu, archi-relu, avec des correcteurs, plein d'éditeurs, des auteurs, et particulièrement pour notre livre, on craignait qu'il reste des coquilles, parce qu'un livre sur la grammaire se doit d'être impeccable. Et ben, à la première, au premier exemplaire qui arrive, à chaque fois, vous pouvez être sûr qu'il y a une erreur à l'intérieur. La première page qu'on ouvre, c'est une forme d'intuition. Mais cela dit, je voudrais ajouter que donc il y a un génie à l'erreur, et que connaître les erreurs et connaître les erreurs surtout qu'on fait soi-même quand on écrit, ça aide par la suite à apprendre davantage et puis à se corriger. Il vaut mieux une bonne erreur, et puis c'est comme dans les histoires d'amour. Il vaut mieux être naturel, mettre les pieds dans le plat, faire une gaffe, et puis se rattraper après par un bouquet de fleurs ou une belle formule ou tout ce que vous voulez, plutôt que de ne rien faire... ou pire, d'oublier. Si on fait le coup de pas de fleurs à la Saint-Valentin pour notre grand-mère, elle n'est pas contente.
Allez, restez avec nous, nous vous raconterons quelques histoires de la langue française dans quelques instants, et puis nous verrons en fin d'émission si l'écriture inclusive est un frein au plaisir du français, ou alors pas du tout. Stéphanie Valois et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, avec l'aide de Louison Asselin-Bizet, à la technique ce matin, Kevin Pelot et Pauline Laverdure, le duo de choc. La réalisation est signée Claire Destacant, et la programmation musicale, Muriel Pérez, et on écoute Dalida, Histoire d'un amour.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers
le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace. C'est nous, l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de.
Dalida interprétait Histoire d'un amour.
Tiens, monsieur, il y a deux paix à l'appel.
Grand bien vous fasse.
Appel, ça prend deux paix. T'es sûr?
Ali Rébéi.
Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. J'avais fait exprès une faute d'orthographe pour voir si vous allez le voir.
Sur France Inter.
10h28, pourquoi aimez-vous la langue française? C'est notre thème ce matin. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Gilles nous écrit: la langue française est pour moi source de jubilation permanente. Tiens, à ce propos, écoutons l'écrivain René Frény qui déclare sa flamme à notre langue.
On fait l'amour avec la chair des mots, avec la langue. Il faut un peu de facilité, un peu de décontraction pour faire bien l'amour avec la langue. Et la langue peut me troubler. Quand j'écris sur mon cahier, je me dis, je vais peut-être être invité chez Pivot ou chez ou à la grande librairie. On prend peur. C'est un tango qu'on fait avec la langue. On danse, on la tord, on la fait crier, on la fait jouir, on la caresse, on la rudoie. Et c'est on fait jouir la langue. Hein, vous l'avez, il a dit Bernard, on fait jouir. Donc c'est très sensuel la langue, l'écriture. Et si elle n'est pas sensuelle, elle n'existe pas.
René Frény dans la grande librairie sur France 5 en 2016. Marianne nous écrit: la langue française est la plus belle dans le monde, plein de charme, de sensualité, avec cette sonorité unique qui est comme une caresse. J'adore sa complexité et toutes ses nuances. Apprendre le français, c'est comme apprendre trois langues à la fois, avec son langage soutenu, courant, familier, ce qui le rend unique, un vrai défi qui en vaut bien la chandelle. Xavier Mauduit, lors de Chantal, vous publiez donc Notre grammaire est sexy. Pourquoi est-elle sexy, notre langue, notre grammaire, cette langue charnelle qui s'écrit selon vous avec une foule de fascinants personnages, ses verbes, ses sujets, ses compléments, ses attributs du sujet, ses pronoms, ses adjectifs, ses subordonnées relatives, circonstancielles, ses adverbes, ses conjonctions, une véritable orgie grammaticale, écrivez-vous.
Mais c'est très juste, Ali, c'est tout à fait ça, parce qu'il y a un couple de bases. Non mais c'est vrai, il faut un sujet et un verbe. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de sujet parfois, parce qu'à l'impératif, on dirait M. Donc un verbe, on rajoute le sujet, vous l'avez superbement dit, tout doucement, arrive le mari, la femme, l'amant, tous les copains. Enfin bon, il y a quelque chose d'assez fascinant. Et puis elle est sexy, parce qu'elle nous échappe. Et nous aimons bien, toujours dans la séduction, ce qui nous échappe un peu.
Alors, c'est une langue qui comporte beaucoup plus d'exceptions que de règles. Julien Soulier, vous publiez etc., etc., la langue française se raconte. C'est ce qui rend le français à la fois difficile, terrifiant, mais également terriblement attractif. Ah oui, moi le, effectivement, enfin, alors là, peut-être c'est mon vice personnel, mais je l'assume. J'adore effectivement toutes les exceptions. Moi, j'ai les coquetteries, toutes les petites coquetteries de notre langue qu'elle a gardées. Elle a gardé des traces comme ça de règles anciennes, d'étymologie latine, grecque ou d'autres langues. On a des règles très alambiquées. On a peut-être, à mon avis, bon, je ne suis pas, enfin, je ne connais pas, je ne maîtrise pas des dizaines de langues, mais je pense que quand même la règle d'accord du participe passé ou l'adjectif devant Jean, quand est-ce qu'on le met au féminin ou masculin, voilà, il y a des règles comme ça. Je sais pas quel grammairien tordu ou désœuvré a pu créer de telles règles, mais moi j'avoue que je trouve ça, comme disait René Frény, je trouve ça assez jouissif, ce genre de coquetterie. Et puis elle porte la trace effectivement de son histoire, elle a vécu, donc effectivement elle a certaines séquelles, elle a voilà certains stigmates de son histoire, et je trouve ça vraiment passionnant.
Et oui, Laure de Chantal, le français est un palimpseste, hein, c'est un feuilleté d'histoire. La langue française porte en elle notre patrimoine historique et culturel, de façon plus ou moins visible, hein, évidemment.
Alors, je voudrais juste rebondir sur l'aspect sexy avant de parler du patrimoine. Disons que la langue française, elle a le chic pour, comme dans une histoire d'amour à nouveau, il faut toujours trouver un petit truc pour pimenter, relancer et tout. Et avec cette multiplicité de règles, de bizarreries, de coquetteries, quand vous croyez la tenir, eh bien, il y a toujours quelque chose qui vous échappe et elle vous pousse vers le haut, il faut aller plus loin. Et ça, c'est quand même le secret d'une histoire d'amour qui marche. On peut se reposer sur elle également. Et pour la conception patrimoniale, ben c'est ce que je disais au début, c'est que c'est vraiment une des particularités de la langue et une des choses, c'est pour cela qu'on s'est mis, on s'est accoquiné, Xavier et moi, une littéraire et un historien, c'est bien pour montrer cette dimension particulièrement historique de la langue qui ramasse un peu tout et qui a soif de montrer que justement elle est patrimoniale, c'est-à-dire que quand on parle français, même si c'est un français contemporain, affleure toutes les autres périodes historiques. Ce qui est charmant et intéressant parce que finalement, dès qu'on parle, on a un petit aperçu de manuel d'histoire, que ça soit d'histoire, ça peut être l'histoire, on parlait d'histoire antique, mais ça peut être aussi l'histoire médiévale ou l'histoire plus contemporaine ou les années 50. Enfin, on a toute notre histoire qui tient dans notre bouche. Ça fait quand même une belle particularité.
Julie Neveu, maîtresse de conférences en linguistique.
Oui, c'est sûr. En fait, je suis désolée, moi aussi je veux faire cocorico. Moi aussi, je la trouve. J'adore ma langue. Je voudrais pas passer pour celle qui l'adore pas. C'est juste que je pense qu'on peut quand même dire ça dans une certaine mesure de la plupart des langues. Mais à savoir qu'elle porte à la fois l'histoire et un point de vue sur le monde. Ensuite, moi, ce que j'aime dans la langue française, pour essayer d'aller dans le même sens, bien sûr, ce qu'elle a de particulier, je crois, si je compare, par exemple, au latin ou à l'allemand, mais qu'elle a en commun avec l'anglais, c'est que, par exemple, la fameuse classe dont parle aussi Voltaire, c'est qu'en effet, elle est claire au sens où la construction de la syntaxe, l'ordre des mots, en fait, va refléter la répartition des rôles dans ce que vous essayez de décrire. Donc, je, c'est la place du sujet qui commence, c'est celui qui mène l'action, en général, de façon typique. Je mange ma soupe avec une cuillère, vous voyez. Donc, sujet, verbe, objet, donc, ce que je fais avec mon action, et après, possiblement, un moyen ou quelque chose. Donc, on déroule, et au fur et à mesure qu'on déroule, il y a une sorte de mimétisme de la situation, qu'on retrouve dans la syntaxe. Donc ça donne une certaine clarté et surtout ça accroche l'attention puisqu'il faut suivre si on veut construire un suspense et aller jusqu'au bout de l'histoire. Et ce que je trouve magnifique, moi, et ce que je trouve louable, c'est quand les ceux qui enseignent la grammaire la font passer, enfin non pas comme un paquet de contraintes insupportables à assimiler, bon ce que sont capables de faire les enfants en fait en général, ce qui est assez fascinant, mais qui explique un peu la grammaire. Et en fait c'est vrai que si vous expliquer la grammaire, qui une fois de plus, j'essaie de le dire tout à l'heure, mais ce sont des règles qui sont des descriptions d'abord. Vous voyez, des descriptions de faits réguliers. Et après, ça devient normatif, mais il faudrait pas que ça le devienne trop non plus. C'est un équilibre entre ce qu'on constate et ce qu'on voudrait que les autres fassent aussi pour qu'on puisse se comprendre. En gros, c'est ça l'équilibre, quoi. Et donc, en gros, si vous expliquez la grammaire, eh ben là, ça passe et là, c'est génial. Par exemple, la voix active permet de montrer que le sujet mène une action. Et puis, la voix passive, d'un coup, vous basculez avec le passif. Et donc là, cette fois-ci, c'est le sujet, le point de vue. Le sujet, c'est la victime. Par exemple, Harpagon, quand il se fait voler sa cassette, il dit « Ah, je suis enterré, je suis perdu, je suis assassiné » parce qu'en fait, il sait pas qui l'assassine, qui a volé la cassette, et tout passe à la voix passive. Donc c'est intéressant d'expliquer aux enfants que finalement, quand c'est le sujet à la voix passive, eh bien, c'est qu'on privilégie le point de vue de la victime, ce genre de choses, par exemple.
L'un des plaisirs du français réside dans sa construction, hein, Julie Neveu le disait. Pour Voltaire, l'ordre et la clarté constituent le génie de notre langue, hein, Julien Soulier.
Oui, bah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une certaine clarté, peut-être plus que dans d'autres langues, ou peut-être autant, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on, quand on compare à l'allemand, alors moi j'ai fait l'allemand, donc c'est vrai que le coup du verbe à la fin dans la subordonnée, on dit souvent que ça permet aux Allemands d'avoir des discussions plus peut-être plus posées, plus calmes, parce qu'il faut attendre la fin de la phrase pour comprendre ce qu'a dit le contradicteur, éventuellement. En latin, ça pouvait aussi fonctionner comme ça. Donc quand un Cicéron parlait avec la période cicéronienne, on avait souvent le verbe à la fin avec plein de compléments entre les deux. Donc il fallait attendre. Alors peut-être le latin, du coup, s'avère peut-être plus rhétorique que le français. Peut-être aussi un peu moins clair, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous, on a comme ça une certaine fluidité, une certaine clarté. Oui.
Alors l'embryon du français est né de l'enchevêtrement de deux langues, le gaulois et le latin, pour le dire vite, Julien Soulier.
Oui, alors surtout latin quand même, de façon quand même écrasante. Et alors pas n'importe quel latin, je parlais de Cicéron, pas le latin de Cicéron, pas le latin d'un certain Jules César, mais le latin populaire. Pour ça, on parle du génie de la langue, mais il faut voir à quoi on remonte. On remonte effectivement aux gallo-romains, en fait, les Gaulois qui fréquentaient, en fait, qui fréquentaient pas Jules César ou Cicéron, mais qui fréquentaient les commerçants, les voleurs, les artisans, les marchands. Donc, en fait, on a emprunté un vocabulaire, enfin, on a créé une langue à partir d'un substrat comme ça, qui en fait repose sur ce qu'on appelle le latin vulgaire, qui veut pas dire grossier, hein, mais qui veut dire le latin du peuple.
Et il nous reste très peu de traces du gaulois. Les druides, dépositaires du savoir et de la religion, ne transmettaient leurs connaissances qu'à l'oral. C'est pour ça qu'il nous reste peu de traces.
Oui, c'est ça. On le voit bien avec Panoramix. Hein, surtout, ne pas écrire la recette de la potion magique. Évidemment, ça se transmettait à l'oral. Et par conséquent, la culture écrite n'existant pas, vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, c'est vrai que c'est ainsi que le latin a pu laminer complètement le gaulois. Et maintenant, dans un dictionnaire comme le Petit Robert, on estime qu'il y a, j'avais fait le calcul, je crois, moins de 0,5% de mots qui sont issus du gaulois.
Le français, c'est un métissage qui s'est enrichi de racines latines, grecques, germaniques, arabes, espagnoles, italiennes.
Oui, moi j'aime bien dire que c'est un millefeuille.
Un millefeuille.
On parle souvent du millefeuille administratif. Là, on a le millefeuille linguistique. Et c'est vrai qu'on est parti donc d'un substrat latin avec quelques petits bouts de gaulois. Et puis ensuite, se sont greffés là-dessus les supposées invasions. Maintenant, je crois que les historiens remettent pas mal en cause cette vision. Donc, mais bon, si on garde cette terminologie-là, les invasions germaniques, donc les Francs notamment, d'où vient le français et d'où viennent les Français. Puis ensuite, effectivement, l'arabe au Moyen Âge et puis à la Renaissance l'italien. Donc, c'est une espèce comme ça d'enrichissement perpétuel. Et c'est vrai que tout à l'heure, on le disait, quand on parle de combat contre les anglicismes, effectivement, je pense pas qu'il y ait un combat vraiment à mener. C'est normal qu'une langue s'enrichisse, c'est comme ça qu'elle vit, en fait, en fréquentant d'autres langues. Là où c'est effectivement un tout petit peu plus gênant, c'est ce que disait très bien Alain Rey, hein, c'est quand la source d'approvisionnement devient quasi unique. C'est là où c'est un peu plus embêtant, et c'est quand même ce qui se passe plus ou moins avec l'anglo-américain.
Xavier Mauduit.
Effectivement, et on retrouve d'ailleurs un va-et-vient que l'on connaît avec des mots français qui sont passés dans l'anglais parce que, évidemment, les Normands, Guillaume le Conquérant sont partis en Angleterre. Et à l'inverse, nous avons des mots qui nous viennent de l'anglais. Parking, c'est absolument formidable, mais non, pas du tout. C'est parking, jamais un anglais dira parking, il dira car park. Et ça, ça nous plaît beaucoup parce que c'est juste au 19e siècle, au 20e siècle, ça fait classe de parler anglais. Alors on invente des mots anglais en ing. Vous voyez, il y a tout un jeu comme ça. Donc parking, ce n'est pas un anglicisme, c'est une invention qui évoque l'anglais.
Julie Neveu, sur ce millefeuille dont parlait Julien Soulier, que nous avons tendance parfois peut-être à oublier.
Oui, c'est ça, on oublie, et tant mieux, parce qu'on n'a pas, on n'est pas censé tout savoir tout le temps sur quelque chose qui est censé être spontané, vous voyez, si on n'y arriverait pas. Mais bien sûr, Alain Rey, justement, pour toujours le citer, lui, du coup, il décrivait ça comme un phénomène de créolisation, ce qui est évidemment un terme un petit peu provocateur par rapport à, enfin, un terme décolonial, vous voyez, pour dire que le français aussi était le fruit de, avait été dominé par le latin. Mais donc oui, bien sûr, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est une grande richesse. C'est vrai que peut-être si la source est unique, mais il disait aussi Alain Rey qu'il y avait plus de danger pour la langue qui approvisionnait toutes les autres plutôt que pour ceux qui recevaient en fait. Donc nous on est toujours en train de recevoir et surtout aussi bien sûr grâce à la francophonie, grâce à l'Afrique notamment, eh bien le français n'est pas du tout menacé. Et c'est vrai que il y a beaucoup de langues africaines parce que qui là sont un peu plus, enfin le français d'Afrique est souvent plus souple parce que finalement la grammaire française c'est peut-être sexy, mais enfin c'est beaucoup moins souple que la grammaire anglaise par exemple, beaucoup moins souple. C'est-à-dire c'est vachement difficile de faire des affixations, de faire dériver des mots avec des suffixes. On fait très très peu, on s'est un peu rigide, notamment à cause de cette histoire d'ordre des mots dans la phrase. Donc voilà, mais je l'aime.
Xavier Mauduit, a-t-on raison de dater la naissance du français en 842, date du serment de Strasbourg?
Il nous faut des dates, donc pourquoi pas cette date-là, hein, quand apparaissent comme ça des premiers textes. Mais on pourrait en donner d'autres, et c'est vrai que le traité de Verdun, etc., on peut en parler. Et bien
1539,
sûr,
l'ordonnance de Villers-Cotterêts.
Et voilà, Ali, vous avez raison, 1539, Villers-Cotterêts, François Ier est dans la place. Mais c'est là où c'est drôlement intéressant. Qu'est-ce que cette ordonnance? Eh bien, c'est le roi qui dit qu'il faut maintenant que tous les procès aient lieu en langue maternelle françoise. Alors aujourd'hui, on dit, tiens, il impose le français. Pas du tout. Il interdit le latin. Ce qu'il veut, lui, c'est que le petit paysan, qui soit en Bretagne, en Alsace, en Provence, quand il va au procès, il comprenne. Donc cette langue maternelle, c'est une des langues maternelles parlées dans le royaume. C'est ensuite qu'on a relu cette ordonnance de François Ier en disant « le roi a imposé le français ». C'est pour ça que c'est passionnant d'apprendre plein de choses avec notre langue.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur l'une des particularités les plus spectaculaires du français, c'est qu'elle regorge de lettres muettes. Lors de Chantal, ce goût du silence, c'est l'une des signatures fortes de notre langue. Je pense par exemple aux marqueurs du pluriel et du genre, le E, le S, le X qui ne s'entendent jamais. Et puis presque toutes les lettres de l'alphabet peuvent devenir muettes. Hein, c'est un des signes de notre langue, ce silence.
Oui, particulièrement, et ça pose d'ailleurs des difficultés quand vous apprenez une langue où le H est prononcé et que vous êtes française, que vous avez beaucoup de mal à le prononcer, notamment en anglais ou avec la R en russe. Cette particularité vient encore une fois de quelque chose d'historique, mais permet de voir ce qu'il y a de spécifique dans le français. C'est-à-dire qu'effectivement, le français est une langue assez atone. Vous devez l'entendre là parce que vous avez que ma voix et que je suis pas une professionnelle de la radio qui est habituée à justement faire vivre la langue autrement. Et donc le français est une langue atone, pas accentuée, à la différence du russe par exemple ou de l'italien. Et donc le seul moyen pour nous d'introduire de la musicalité, et on le fait de manière très riche, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, c'est effectivement de mettre des silences. Comme dans une partition de musique, vous avez des silences. On a la possibilité, avec la virgule, d'introduire un souffle, une respiration, avec le point, faire tomber la voix, et les différents types de ponctuation. Mais la ponctuation et les lettres muettes sont une manière de faire chanter notre langue. Mmh. Et il y a deux types de lettres muettes, parce que je pense qu'il faut quand même parler du H à ce moment-là. Il y a le H qui vient... Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on disait... On n'avait pas le droit de dire des haricots, mais on ne pouvait pas dire non plus des zéros ou ce genre de liaison. En fait, la dissociation se fait entre les mots qui ont une racine où le H vient d'un substrat germanique, où là, on ne peut pas faire de liaison. Et puis ceux où, au contraire, le H... vient du latin ou du grec où là on peut faire une liaison. Et oui, comme on adore les exceptions, héros est justement l'exception qui confirme la règle.
Voilà. Et toutes ces lettres muettes montrent la beauté de l'inutile, hein, Xavier Mauduit. Le PH dans éléphant ne sert à rien, mais si on le remplaçait par un F, j'ai l'impression qu'on enlèverait de la majesté à cet animal. Hein.
Ah oui, c'est comme s'il avait plus de trompe. Ah non, moi je ne veux pas qu'on enlève le PH à éléphant. Effectivement, ce sont des indicateurs sociaux aussi, et ces éléments-là. Savoir écrire éléphant, ça veut dire que l'on maîtrise la langue, parce qu'en vrai, Ali, ça ne change rien. On écrirait éléphant avec un F, et celui qui reçoit le message comprend qu'il s'agit d'un éléphant. Mais ces indicateurs sociaux sont très forts et moi j'y pense beaucoup au moment de dire simplifier la langue ou pas. Et malgré tout, c'est un signe envoyé et ce signe doit être le mieux respecté possible.
Et je vous cite cette lettre muette, ces lettres muettes portent le sceau silencieux d'une origine lointaine qui n'a pas d'autre utilité que de transmettre son souvenir. Ces lettres muettes sont les dents de sagesse du vocabulaire. Julien Soulier.
Oui, c'est vrai que c'est... En gros, quand on maîtrise cette orthographe, on montre qu'on sait que tel mot vient de, enfin, voilà, vient de telle origine. On sait pourquoi compter, il y a un P, comme putare en latin. Enfin voilà, on connaît éventuellement l'origine. Et puis ces mots comme ça, enfin ces lettres muettes sont effectivement une mémoire. C'est un souvenir. C'est un souvenir de plus en plus labile, de plus en plus évanescent, parce qu'on a tendance à les faire disparaître ou à les reprononcer. Hein. Beaucoup de gens redisent sculpteur pour sculpteur. Peut-être on dira automne bientôt. Mais c'est vrai qu'il y a une retendance. Ça a été le cas au Moyen-Âge où on prononçait, en gros, l'orthographe était phonétique, donc on prononçait toutes les lettres. Et puis après, il y a un mouvement effectivement d'amuissement comme ça des consonnes. Certaines lettres sont devenues muettes. Il faut savoir quand même qu'à la Renaissance, on se plaint, mais à la Renaissance, par exemple, connaître pouvait s'écrire connuastre et se prononcer connoître. Donc, on a quand même un petit peu simplifié certains académiciens, notamment l'abbé d'Olivet, le précepteur de Voltaire. Par à coup, en fait, l'académie il y a eu une espèce de un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. À certaines périodes, l'académie revenait en arrière, donc était conservatrice, rajoutait des lettres muettes, rajoutait des règles compliquées. Et puis, à d'autres moments, notamment sous l'impulsion de l'abbé d'Olivet, eh bien, on a simplifié, on a écrémé, je crois que lui a au moins simplifié un tiers de mots du dictionnaire de l'Académie à l'époque.
Et puis justement, en évoquant ces lettres muettes, il y a le E muet, et les auditeurs, les auditrices, mais nous le savons tous, assistent à l'apparition de lettres qui ne devraient pas être, quand on parle et qu'on hésite, et ben le E qui est censé être muet, il prolifère, c'est comme les pneus. Ça aussi.
Alors, j'aimerais moi me faire un peu le défenseur des gens du Sud, puisque le E muet dans le Sud n'est pas si muet. Hein. Moi, je me souviens, toute ma famille était du Sud quand je descendais dans le Sud et que je demandais un verre d'eau, on se moquait de moi, parce que pour eux c'était un verre d'eau. Oui. Donc il faut quand même penser à ces locuteurs-là qui eux font sonner le E.
Alors l'un des plaisirs de notre langue réside également dans ses accents. Dans un courriel, par exemple, l'absence totale d'accent peut signaler une négligence ou un manque d'élégance, Xavier Mauduit.
Ah, c'est une horreur. C'est une horreur. Non, mais c'est vrai. N'ayez pas d'amis qui partent dans un pays où il n'y a plus les claviers avec accent. C'est une horreur. Vous recevez un texte sans accent, mais c'est presque illisible. Alors c'est amusant aussi de voir l'évolution, parce qu'il fut un temps où on pouvait se passer d'accent. Il y avait une autre forme de lecture. Mais aujourd'hui, ça pique les yeux.
Je vous cite, les accents sont de petites baguettes magiques qui se posent sur les mots et les métamorphosent. Et c'est vrai qu'on pense à l'accent circonflexe, à la cédille hein, d'origine espagnole, le tréma, qui sont des petits riens qui changent tout de délicieux glaçages qui embellissent nos mots, Julien Soulier.
Ah oui, alors moi, mon glaçage préféré, c'est l'accent circonflexe. Ah bah oui. J'avoue que j'ai un amour immodéré pour l'accent circonflexe, qui ne sert plus à grand chose, mais comme dit le linguiste Bernard Cerchilini dans son livre sur l'accent circonflexe, il dit ce petit signe que plus rien ne le justifie, mais que tout légitime. Voilà, et je trouve ça magnifique, c'est exactement ça. C'est vraiment toute l'histoire de la langue française en creux, avec cette petite mouette renversée sur les lettres. Et moi, je trouve ça, je trouve dommage que la réforme de 90 ait tenté de le supprimer. Alors, c'est vrai que ça simplifierait l'orthographe, mais j'avoue que c'est un petit signe, moi, qui me tient particulièrement à cœur.
Allez, on continue à célébrer la langue française dans quelques instants. Et on écoute un orfèvre de la langue française, Eddy de Préto, Bateau-mouche.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène, je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large, je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Je découvrais Paris,
comme découvre l'étranger.
Viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop laid.
Les monuments crarés,
emportés comme jamais.
Je n'avais qu'une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment.
Monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons.
Comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde.
Eddie Depreto interprétait Bateau Mouche.
Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Grand bien vous fasse.
Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse.
Je ventile. 10h51, pourquoi aimez-vous la langue française? C'est notre thème ce matin, standard ouvert au 01 45 24 7000. Et vous nous avez appelé, Mélodie, bienvenue.
Oui, bonjour.
Expliquez-nous votre amour pour le français.
Oui, mon amour pour le français a été déclenché par un professeur particulier qui s'appelle Monsieur Richard, à qui j'aimerais rendre hommage, en fait. C'est grâce à lui que j'ai vraiment aimé le français. Quelque chose s'est déclenché en moi quand j'ai pris ses cours. Et grâce à lui, en fait, j'ai continué mes études de lettres. Je suis tombée amoureuse de Marcel Proust, de Stendhal, de Balzac. Mmh.
Merci beaucoup, Mélodie. Et vous, autour de la table, Xavier Mauduit, Julien Soulier, Laure de Chantal, Julie Neveu, il y a eu un déclencheur, comme ce monsieur Richard dont parle Mélodie, Xavier Mauduit.
Ah bah, en l'occurrence, pour moi, c'est être confronté à la nécessité de bien écrire. J'ai fait toute ma scolarité avec moins deux pour l'orthographe, jusqu'au bac, parce que ça allait. Et après, on se rend compte que ça ne va plus, ce n'est plus possible. Et puis même, dans les relations humaines, la honte de faire des grosses faute. Et là, je me suis dit, il faut cesser. Et je me suis pris en main orthographe, grammaire, et j'ai corrigé.
Julien Soulier.
Ah, moi, c'est aussi un professeur, mon professeur de quatrième, à qui je rends vraiment hommage. Monsieur Charrier, s'il nous écoute, je vous adore toujours. qui m'a fait découvrir le subjonctif imparfait, et à la fois les romans policiers, et à la fois Iphigénie de Racine. Enfin, c'était vraiment... et je l'adorais. C'était lui qui nous disait, en entrant dans la salle, il règne dans cette salle les odeurs catarales, les sui generis. Donc, en reprenant la description de la pension Wauquiez dans le Père de Balzac, et moi je le regardais avec les yeux de Chimène, et j'étais quasiment amoureux de lui, tellement c'était formidable de l'entendre.
Julie Neveu.
Ben oui, je pense que les auteurs, là, vous citez Mélodie aussi, des bons professeurs qui ont aussi su faire découvrir la beauté de la langue à travers des auteurs, des grands auteurs, des grands écrivains, mais ça peut être Edith Préto aussi, ça peut être n'importe qui a un rapport à la langue qui lui permet d'être créatif. Et c'est quoi la créativité à l'intérieur d'une langue? C'est quand la langue, en effet, vous permet de faire accéder à une certaine vision du monde, hein, ce que tous les artistes font, en fait, une vision, mais dans laquelle vous vous reconnaissez. Et c'est vrai que je pense que c'est possible de se reconnaître parce qu'on est né, donc, dans cette langue et qu'elle nous parle particulièrement. Et si par hasard, voilà, ce que vous lisez exprime, rende grâce à une réalité qui est celle qui vous touche, qui vous émeut, alors là, c'est bingo. Moi, c'est Flaubert. J'ai beaucoup lu Flaubert, assez petite en fait. Et il dit, Flaubert, dans ses correspondances, que on peut faire une très très grande amour en parlant d'un brin d'herbe qui s'émeut, qui frémit. Et ça ouais, j'adore. Et c'est quelque chose de très concret à la fois et avec des traversées de sensations, quoi.
À propos de Flaubert, faudra que vous reveniez tous pour parler du temps, des temps passés comme l'imparfait, le passé simple, etc. Il y a de très belles pages dans vos livres respectifs. Mais j'aimerais quand même qu'on termine avec l'écriture inclusive. Pour certains, l'écriture inclusive est une entrave au plaisir de la langue française. On le sait depuis les bancs de l'école, le genre grammatical masculin l'emporte sur le féminin dans notre langue. Et l'écriture inclusive est censée mettre sur un pied d'égalité le féminin et le masculin. Bonjour Alice Develay, bienvenue.
Alice Develay, bonjour, vous êtes journaliste au Figaro.
Bonjour.
Bonjour, il y a quelques jours, vous avez co-signé dans votre journal un papier intitulé « Écriture inclusive, mode d'emploi d'une lubie ». Le but donc de cette écriture inclusive, c'est de démasculiniser la langue française. Expliquez-nous pourquoi, pour vous, c'est une lubie, cette écriture inclusive. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette écriture inclusive ?
Oui, alors en fait, tout d'abord, je pense qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on entend par écriture inclusive. Est-ce que c'est le point médian, c'est-à-dire ce point qu'on met pour justement donner une visibilité supplémentaire à la femme, donc en...
Ah, on a un petit souci avec vous, Alice Develay. Peut-être que Julie Neveu, vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'écriture inclusive et notamment cette graphie particulière qui peut t'agacer certains et réjouir d'autres, évidemment. Ce point médian qu'on appelle également point d'altérité, qui est censé bannir la suprématie du masculin sur le féminin dans la grammaire.
Oui, bien sûr, mais si Alice Develay redevient disponible, vous lui redonnez la parole.
Bien sûr, évidemment.
Vous promettez.
Des problèmes de liaison.
Donc oui, l'écriture, ce qu'elle était en train d'expliquer, c'est le point médian, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en effet tout un groupe militant féministe qui essaie depuis quelques années de rendre plus général l'usage du point. Par exemple, moi j'écris à mes étudiants, et c'est vrai que depuis des années, enfin depuis toujours, j'écris « chers étudiants », même s'il y a des filles dans mon groupe d'étudiants. Et là, il faut écrire « étudiants t.e.s » pour inclure les femmes parmi ces étudiants. Alors le débat, les termes du débat, c'est très très compliqué, mais en gros, pour faire simple, il y a ceux qui disent, mais écoutez, étudiant est une façon de caractériser le rapport entre le professeur et l'étudiant, vous voyez, c'est une sorte de fonction quasiment, et de jeu de rôle, et là-dedans, le pluriel permettait déjà d'inclure. Vous voyez, le pluriel est censé inclure déjà, en fait, tout, et ne pas distinguer. Et donc, si on dit « chers étudiants.e.s », est-ce que du coup, les femmes se sentent moins exclues ? C'est une question. On peut aussi dire « chères étudiantes » et « chers étudiants », c'est plus long. Mais le problème, c'est que là, du coup, on dissocie aussi. Vous voyez, donc le pluriel, il associait. Et si on distingue, si on détaille, on peut aussi se retrouver à dissocier.
Nous avons décidément des problèmes de liaison ce matin. Alors, parmi les principes de l'écriture inclusive, on retrouve également la féminisation des noms de métiers, des titres et des fonctions. Et puis, l'écriture inclusive privilégie les mots épissanes, hein, ces mots qui ont la même forme au masculin et au féminin, Julien Soulier.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut peut-être distinguer deux choses. Il y a effectivement la féminisation des noms de fonctions qui remonte, qui est déjà un vieux serpent de mer, hein, puisqu'on en parlait déjà dans les années 90. Contre laquelle l'Académie s'est longtemps élevée et puis finalement elle s'y est rangée en 2019 je crois, donc il y a assez peu de temps. Donc ça c'est vrai que ça se fait assez facilement et j'avoue que je ne vois pas quel obstacle on peut y voir autre qu'idéologique. C'est-à-dire dire un juge, une juge, le nom d'épicène en plus, quel est le problème ? Un auteur, une autrice qui existait déjà au Moyen-Âge et sous la plume de Rousseau. Donc voilà, c'est et alors il faut savoir qu'effectivement cette disparition du féminin après le Moyen-Âge, ça a vraiment été quelque chose d'idéologique, concerté et voulu par certains académiciens, notamment Vaugelas, qui avait déclaré que comme le masculin domine le féminin, eh bien il faut que la langue porte la trace de cette domination. Si ça c'est pas de l'idéologie, je ne sais pas ce que c'est.
Nous parlions de l'usage acteur, actrice, évident, auteur, autrice, bien évident. Sûr. Et pour l'écriture inclusive, j'ai été très surpris d'avoir beaucoup de retours après une série d'émissions sur France Culture sur le handicap de gens qui nous disaient « Attention, avec l'écriture inclusive, nous qui sommes victimes de handicap, nous ne pouvons plus lire par des logiciels automatiques. » Donc ça a des conséquences vraiment néfastes et je ne suis pas sûr que ça règle la véritable question.
En tout cas, nous consacrerons une émission à l'écriture inclusive. Désolé Alice Develay pour ces problèmes de liaison. Merci Xavier Mauduit et Laure de Chantal. Notre grammaire est sexy. Notre grammaire, pardon, est sexy. Déclaration à la langue française vient de paraître chez Stock. Merci Julien Soulier, est publié chez First. Merci Julie Neveu, que l'on retrouve dans nos émissions consacrées à la langue française.